Oui, Seigneur, viens mettre ta lumière dans notre cœur, accueillir cette lumière de l'enfant Jésus, cette lumière bienfaisante, cette lumière qui chasse les ténèbres de nos cœurs. Que tu puisses venir y régner, car tu es le roi de l'univers, tu es notre sauveur, tu es le Fils éternel du Père, celui que le Père a envoyé pour nous révéler la miséricorde de Dieu. Donne-nous ton Esprit Saint en abondance, pour que nous puissions écouter cette parole, qu'elle vienne nous guérir, nous transformer, mettre de la lumière dans nos vies, pour que nous soyons dans la joie et dans la paix, que nous soyons source de lumière pour les autres. Du psaume 131. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Ce psaume est particulièrement court. On pourrait dire que c'est le psaume que le Seigneur nous invite à méditer quand nous savons, nous sentons que nous avons besoin d'humilité. Et qui d'entre nous n'a pas besoin d'humilité? Qui d'entre nous n'a pas besoin d'être libéré de l'orgueil qui nous enferme dans une tour, qui nous empêche d'avoir la paix? Nous avons tous besoin de recevoir l'humilité du Seigneur. L'humilité, c'est la vertu la plus importante de la vie chrétienne. Puisque l'humilité, comme le dit saint Paul, c'est l'œuvre de la charité, c'est l'expression la plus grande de la charité, c'est l'humilité. C'est ce que dit saint Paul dans son hymne à la charité. La charité ne se gonfle pas d'orgueil. Celui qui est dans la charité, il accepte d'être petit, d'être humble. Il accepte même parfois d'être humilié sans vouloir se venger. Voilà la grâce de l'humilité. Et l'humilité est source de paix pour le cœur. Souvent, quand nos cœurs ne sont pas dans la paix, c'est parce que nous manquons d'humilité. Nous n'acceptons pas telle chose, etc., parce que nous manquons d'humilité dans notre cœur. Quand l'humilité vient dans notre cœur, eh bien, c'est une grande grâce de paix face aux épreuves qui peuvent être parfois très difficiles à accepter. L'humilité nous donne la grâce de tout accepter parce que nous faisons confiance au Seigneur. Et donc l'humilité, qui est le contraire de l'orgueil, eh bien, nous fait échapper à cet orgueil qui est en nous comme une cuirasse qui nous rend extrêmement durs par rapport à nous-mêmes, par rapport à Dieu, par rapport aux autres. L'orgueil nous coupe de nous-mêmes, de ce que nous sommes réellement, nous fait perdre le sens de la réalité sur nous-mêmes. Il nous coupe des autres, parce que l'orgueil fait que nous allons jalouser les autres, que nous allons nous situer au-dessus des autres, que nous allons éviter telle ou telle personne parce que nous les jugeons indignes de nous. L'orgueil nous empêche d'être frères et sœurs de tous. Et l'orgueil fait de nous des personnes toujours insatisfaites. Parce que quand on est dans l'orgueil, on n'est jamais content, on n'a jamais assez, on n'a jamais ce qu'on veut avoir. On se dit toujours qu'on mériterait d'avoir plus, parce que nous sommes dans l'orgueil. Bref, l'orgueil est une source de conflit, d'abord à l'intérieur de nous-mêmes, ça met notre esprit dans le conflit, nous battons contre nous-mêmes avec l'orgueil, ça nous met en conflit avec les autres. Parce que l'orgueil nous empêche d'écouter quand quelqu'un a quelque chose à nous dire, l'orgueil va nous empêcher d'écouter, et donc du coup, on ne peut pas vivre une relation saine avec quelqu'un quand on n'écoute pas. Dont on ne veut pas entendre ce qu'il a à dire, même si ce qu'il veut nous dire ne nous plaît pas forcément. L'orgueil nous empêche d'être dans l'amour de Dieu, de faire confiance à Dieu, parce que à cause de l'orgueil, nous sommes nous-mêmes Dieu, nous nous divinisons nous-mêmes, comme le diable avait promis dans le récit des origines, en Genèse chapitre 3, vous serez comme des dieux si vous mangez le fruit de l'arbre, vous serez comme des dieux. Et Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Quelle erreur! Quel mensonge! Puisque Dieu nous a créés à son image. Est-ce qu'il n'y a pas de plus grande dignité pour Dieu que de lui conférer d'être, la grâce d'être à son image et à sa ressemblance? Mais l'orgueil va utiliser notre désir de bonheur éternel, d'être divinisé, parce que Dieu va effectivement nous diviniser. Il va utiliser ce désir qui est en nous pour nous faire tomber. Il va dire, divinise-toi toi-même. Le Dieu, c'est toi-même. Tu n'as pas à recevoir la puissance, la sagesse, l'amour de quelqu'un d'autre. Et dans le psaume, le psalmiste nous dit, être orgueilleux, c'est finalement vouloir faire de grandes choses par soi-même. Je poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Pour le psalmiste, être orgueilleux, c'est vouloir faire les choses par soi-même. Et des choses qui nous dépassent. Évidemment, quand on agit sans Dieu, tout nous dépasse. Quand on agit avec Dieu, eh bien Dieu va nous faire faire des choses bien plus grandes que celles que nous voulions faire sans Dieu. Il va nous conduire bien plus loin que là où nous pensions pouvoir aller sans lui. Donc l'humilité nous permet d'être dans la confiance avec le Seigneur et de nous laisser guider par lui dans la paix. Aussi, il est bon de prier ce psaume pour recevoir la paix du Seigneur. Et le psalmiste dit aussi, « Mon âme est en moi comme un enfant contre sa mère. » Donc il regarde son âme, c'est-à-dire cette capacité en lui à vivre la vie spirituelle le plus profond de soi-même, on pourrait dire mon cœur aussi, mon âme est en moi, au plus profond de moi-même, j'éprouve le fait que je suis un enfant, comme un enfant contre sa mère. Quand je suis dans la paix, dans la prière, je suis comme un enfant contre sa mère, je reçois la paix du Seigneur, je suis dans la confiance, je peux me laisser remplir de l'amour de Dieu. Et justement, comme Thibault nous l'a rappelé tout à l'heure, nous allons pouvoir contempler dans 5 jours l'enfant Jésus dans la crèche, dans sa pauvreté, dans la pauvreté de ses parents. Et l'enfant Jésus nous dit, vous voyez, je suis Dieu, je suis le sauveur du monde, et j'accepte là d'être là dans une crèche et ne rien faire. On aurait pu se dire, ben, si Dieu arrive dans ce monde tout de suite, allez, hop, au boulot tout de suite. Il faut tout de suite sauver le monde parce qu'il est mal barré. Eh bien non, Jésus commence par être dans une crèche, à ne rien faire, voilà, à être aidé par ses parents. Et à travers là, il nous apprend la confiance, la patience, être simplement avec le Seigneur, vivre l'instant présent avec le Seigneur et avec les autres, s'abandonner complètement à son Père et à ceux qui sont avec nous, leur faire confiance. Et pourtant, Jésus qui est dans cette crèche, on ne peut pas dire qu'il n'est pas menacé, parce qu'on sait quelques temps après, que quand les rois mages vont arriver à Jérusalem, qui vont raconter à Hérode, le roi Hérode, qu'un enfant divin est né, Hérode va vouloir le tuer. Donc, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas dans la crèche, tout ça, dans la confiance, parce qu'il n'y a pas de danger, au contraire, il n'y a pas de plus grand danger qui le menace, on veut le tuer. Eh bien, voilà, il y a une grande confiance de Dieu. Dieu va lui permettre d'échapper à tout cela, son père, il va lui permettre d'échapper à Hérode, et Jésus fait confiance, les parents de Jésus font confiance, pourtant ils n'ont pas grand-chose pour vivre. Eh bien, c'est ce que le Seigneur veut nous aider à vivre en ce temps de Noël, la grâce de l'humilité, de la confiance qui nous permet d'espérer. Puisque le psaume termine par « Attends le Seigneur Israël » et en hébreu, parce que le psaume est écrit en hébreu, « Attends », ça veut dire aussi « Espère ». Attendre, c'est espérer. Si on n'espère rien, il n'y a rien à attendre. Donc, quand on attend quelque chose, c'est qu'on espère. Donc le Seigneur nous demande de vivre dans cette grande espérance, dans cette grande attente qu'il nous sauve, qu'il vienne au secours, à notre secours et au secours de ceux qui souffrent. C'est la grande attitude que Dieu nous demande d'avoir, une grande espérance, une grande attente dans notre cœur. Voilà, maintenant je vais demander à Francis de venir témoigner de la guérison qu'il a obtenue à la prière des malades, il y a quelques temps. Donc Francis, qui est couturier de métier, il y a un gros problème au pied, et comme il devait utiliser une pédale pour faire la couture, eh bien c'était extrêmement gênant pour lui. Voilà, il va nous raconter son histoire.
Bonsoir, chers frères et sœurs. Je m'appelle Francis Simon, et j'avais très mal au pied depuis quelques années. J'étais voir des médecins, j'ai porté des semelles, c'était infernal, j'en pouvais plus. Et puis, un jour, j'ai entendu parler de l'église Notre-Nicolas des Champs. Et je suis venu avec ma femme, avec ma fille. Et la dernière fois, je suis venu il y a 4 semaines. Et Père Thierry a prononcé des paroles de connaissance. Et dans les 10 minutes qui ont suivi, la parole de connaissance était une personne qui a mal au pied, qu'elle va être guérie, et cette personne, elle va plusieurs fois à l'église dans la semaine. Ça me concernait moi, je pensais que ça me concernait moi, mais sur le coup, en ce moment-là, j'avais les pieds dans un état comme si une voiture qui avait roulé sur les deux pieds, en fait. Et instantanément, j'ai tapé des pieds comme ça, vous voyez, comme les danseurs de claquettes un peu. Je ne sentais plus rien, je me sentais, j'allais sauter de joie si ce n'était pas à l'église. J'aurais dû le faire d'ailleurs, peut-être. Voilà, je rends grâce à Dieu pour cette guérison extraordinaire. Et en plus que moi, je suis obligé de me déplacer et travailler la machine à coudre, j'ai besoin de mes pieds. Sans pieds, je ne peux pas avancer, je perds mon travail. Voilà, je suis d'origine syrienne, je suis chaldéen d'origine syrienne. Je suis né en Syrie. Voilà, ça fera 40 ans que je suis en France, le 26 décembre. Voilà mon père. Je ne sais pas si je vous dis quelque chose.
Voilà, maintenant je vais vous donner quelques autres témoignages de personnes qui ont aussi été guéries à travers la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Donc Pablo avait un cancer du côlon, une personne a déposé une intention de prière pour lui à la prière des malades, et lorsqu'on l'a opéré, les médecins ont eu la grande surprise de découvrir qu'il n'y avait plus rien, plus de cancer, rien du tout. Donc Jamila est venue prier pour son père qui devait être lui aussi opéré de la thyroïde. Une parole de connaissance annonçait la guérison d'une personne qui devait être opérée de la thyroïde. Et de fait, son père a été guéri et l'opération a été annulée. Cette fois-ci, on ne l'a même pas opéré. Augustina est venue en juin dernier à la prière des malades. Elle avait un cancer à la cuisse. Elle n'a pas été guérie pendant la prière. Elle espère toujours sa guérison. Par contre, pendant la prière, elle a ressenti une grande chaleur et un immense bonheur. Un amour très fort est venu en elle. Et depuis, elle vit avec cette force nouvelle et cette chaleur dans son cœur. Et elle sent que depuis, elle s'est beaucoup plus ouverte aux autres. Donc le Seigneur lui a donné une grâce d'amour dans son cœur en lui montrant qu'il l'aimait. Cette chaleur d'amour lui a permis d'avoir beaucoup plus d'amour pour les autres. Olivier est venu prier pour sa maman, qui avait de la tachycardie, le cœur qui s'emballait, ce depuis plusieurs semaines. Il a beaucoup intercédé pour sa maman auprès de la Vierge Marie. Il y a une parole de connaissance annonçant qu'une personne est venue prier la Vierge Marie et allumer un cierge pour sa maman, qui a de la tachycardie, que cette maman serait guérie. Donc de fait, c'est ce qu'avait fait Olivier, il avait mis un cierge pour sa maman, il avait prié pour elle. Et le lendemain, il a appelé sa maman qui habite aux Antilles. Et de fait, la tachycardie avait disparu depuis le matin où il a appelé, depuis que vraiment s'était réveillé ce matin-là. Plusieurs jours après, il a encore appelé sa maman et sa maman était toujours guérie. Merci Seigneur pour cette guérison. Donc Jeanne habite à Montpellier. Depuis un traitement qu'elle a reçu pour une maladie auto-immune, elle avait besoin de cortisone pour pouvoir respirer correctement avec ses poumons. Elle est venue de Montpellier à la prière des malades. En ressortant, elle a dû courir dans le métro pour ne pas être en retard. Et là, elle s'est aperçue qu'elle ne souffrait plus des poumons. Elle est venue quelques mois plus tard, donc à Paris, elle a refait le voyage pour remercier le Seigneur et prier pour sa maman, qui à ce moment-là était dans la confusion et n'arrivait plus à réfléchir, à cause vraiment de problèmes de vieillesse. Parole, ce soir-là, a annoncé que le Seigneur guérissait une personne ayant une nécrose des poumons, ce qui était donc le problème de Jeanne. Et donc, depuis, sa respiration est devenue normale, redevenue normale, parce que la première étape de la guérison, elle pouvait courir, mais elle avait encore des problèmes aux poumons. Donc cette guérison s'est faite en deux étapes. Et la deuxième étape s'est faite parce que Jeanne est venue remercier le Seigneur pour sa guérison, prier pour la maman. Donc ça a plu au Seigneur qui l'a guérie complètement cette fois-ci. Ce soir-là, quand elle est rentrée à Montpellier, donc quand elle est rentrée pour voir sa maman, elle s'est aperçue que sa maman avait retrouvé tous ses esprits et qu'elle n'avait plus cet esprit de confusion qui lui faisait dire n'importe quoi. Voilà, merci Seigneur pour ces guérisons. Nous allons maintenant accueillir Jésus dans le Saint-Sacrement, donc au milieu de nous, il nous aime. Ayons confiance en lui tout simplement, comme des enfants.